Jean-Michel Jarre est avec nous.
Bonjour Nico, bonjour à tous, merci.
Bonjour Jean-Michel.
Merci à vous.
Vous préférez patriarche, pape, précurseur, qu'est-ce qui vous voit le plus ?
Oh, je sais pas, ça c'est, je laisse la responsabilité à Nikos de tous ces adjectifs.
Mais c'est vrai qu'à 40 ans, Oxygène. Si on vous avait dit à l'époque que ça allait durer 40 ans et que votre musique allait traverser les modes, vous l'aurez cru ?
Quand on me pose ce genre de questions, je pense toujours à cette réponse très sincère de Mick Jagger au début des Rolling Stones en disant « Vous pensez que vous allez durer combien de temps ?» Il a dit « Oh, 2 ans maximum. » Donc ça donne de l'espoir.
En tout cas, aujourd'hui, vous proposez un très gros projet intitulé Electronica en 2 volumes. Le premier de Time Machine est sorti il y a quelques semaines et le second sortira au printemps, Jean-Michel Jarre. Alors pour ces albums, vous avez travaillé avec une trentaine d'artistes comme Moby, hein, je l'ai dit, Massive Attack, Lang Lang, entre autres. Et vous êtes allé vous-même dans leur studio les rencontrer pour travailler ensemble. Comment ça se passe quand Jean-Michel Jarre arrive chez eux et qu'il sonne à la porte ?
Donc ils sont, j'ai fait en sorte qu'ils ne pensent pas que ça soit un jeu radiophonique que nous ayons monté tous les deux, déjà.
Jean-Michel Jarre vient chez vous.
Voilà. Et en fait, dans ce projet, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'albums de ce qu'on appelle de featuring en anglais, où il y a des gens qui font des apparitions dans des participations, où en fait, souvent, les musiciens envoient un fichier à l'autre bout de la terre.
Par
les
Internet.
Gens se rencontrent jamais par Internet. Et finalement, souvent, ça donne un résultat qui peut être réussi, mais la démarche est souvent un peu artificielle et souvent est faite pour des raisons de marketing.
Ouais, ils chantent même avec les morts parfois. Hein,
donc oui, exactement, exactement. Donc dans ce cas-là, c'était pas du tout ça. C'était vraiment des gens avec qui j'avais envie de collaborer et de se dire... Essayons de partager un moment de création ensemble dans nos studios et donc de se déplacer à un moment où finalement on est en contact avec le monde entier à travers Internet, mais souvent on parle de moins en moins à son voisin de palier. Pour les musiciens, c'est la même chose. On est en contact souvent avec sa famille, ses copains, ses musiciens, son public quand on en a un, mais on a très très peu l'occasion de vraiment partir de zéro et de fabriquer, de créer quelque chose.
Dans la création.
Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de ne pas passer par des agents ou des managers ou autres, de contacter tous ces artistes avec qui j'avais envie de travailler en direct et de me déplacer physiquement et d'aller les voir chez eux dans leur lieu de création et de partager ce moment de création, si ça les intéressait, ensemble, in situ.
À quel moment la musique électronique était mal vue au départ, il faut le rappeler, on comprenait pas, on n'avait pas de titre de noblesse autour de la musique électronique, est devenu le genre électro, qui est plus branché, qui est plus underground. À quel moment ?
En fait, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, on était considéré comme une poignée d'illuminés, qui
n'intéressions
personne, une secte, oui, c'est ça. Bon, une secte sans chef. Enfin, si, il y en avait un qui était Pierre Schaeffer, qui est le fondateur de la musique électroacoustique à Radio France, et qui a tout inventé, qui a été mon mentor et mon professeur, et qui a eu cette idée que tout le monde peut comprendre, qui est que la musique n'est pas seulement faite de notes et d'harmonie, d'accords, et ne dépend pas seulement du solfège, mais est faite de sons. Et cette petite idée-là, elle a changé le monde, c'est-à-dire qu'elle a changé la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque DJ dans le monde est un peu un fabriqueur ou un traqueur de son. Et cette idée-là, d'approcher la musique en fonction du son et pas des notes, est quelque chose qui a même changé la manière dont on éduque les enfants sur le plan de la musique aujourd'hui. Et donc, du coup, quand j'ai fait Oxygène, par exemple, ce disque, on ne voit ensuite, en regardant en arrière, que le succès de l'album. Et cet album a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques. En se disant, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de batteur, il y a des morceaux qui durent 12 minutes, on passera jamais ça à la radio. Et en plus, pour les pays anglo-saxons, en plus, il est français. Donc, du coup, et finalement, ça a été pris par un petit label. Ça a démarré. Je me souviens de 2 choses au lancement. La première, c'est qu'il y a eu des retours. D'ailleurs, ici, ça a été joué pour la première fois ici à Europe 1. Et il y a eu des. Quand les gens ont acheté les premiers disques, il y a eu des retours parce qu'il y avait un son de bruit de noise, de vent. Et il y a eu des retours disant il y a des problèmes sur le disque qui a été acheté. Il y a des problèmes de gravure.
Ah, vous le faisiez avec la bouche, le.
Oui, non, bah, je peux le faire avec la bouche parce que je me suis entraîné, mais avant il fallait un instrument. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est que je me baladais avec mon éditeur sur les Champs-Élysées et on voit à un moment donné Elton John sortir avec 10 copies d'Oxygène. Et il me dit, tu vois, je pense que ça va marcher.
Merci Jean-Michel Jarre d'être avec nous ce matin. On parle de votre nouvel album Electronica de Time Machine. Un deuxième volume est prévu au printemps prochain. Dans un instant, vous allez répondre à nos questions blanches et nos questions noires. On se retrouve juste après un premier extrait de cet album intitulé If. Vous avez collaboré avec Little Boots, elle est britannique, auteure, compositrice, interprète. Elle fait de la musique électropop, elle est un peu déjantée, vous allez nous en parler dans un instant. Voici un extrait de Little Boots et de vous, Jean-Michel Jarre. Et vous sortez du cadre ce matin avec nous sur Europe 1. Devant vous, deux corbeilles, une blanche, des questions gentillettes, un peu loufoques, un peu cuculapraline, et une noire avec des questions un peu plus dérangeantes, voire désobligeantes. Vous choisissez laquelle ?
Bon, on va prendre les noirs, parce que c'est marrant.
Si on mélange les deux, on va voir s'il y a du talent qui va remonter un peu en surface. Alors, attention. Question noire, Jean-Michel Jarre, notre invité ce matin sur Europe 1.
Question noire sur papier blanc. Alors, vous avez joué devant 3,5 millions de personnes à Moscou. Ce n'est pas vexant d'avoir le record du monde avec un concert gratuit. Non, c'est pas vexant, c'est frustrant.
Ouais.
C'est frustrant.
Concert gratuit.
Effectivement, on se dit quand même, c'est dommage, si on avait pu trouver une place pour mettre la caisse, ça aurait été quand même agréable.
Mais comment est-ce qu'on arrive à s'unir à 3,5 millions de personnes, concrètement, franchement?
Ça a été en fait un mystère un peu dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement, je crois, le fait que je fasse des concerts en extérieur et que finalement que le plafond de la salle, ce soit le ciel, fait que l'échelle est forcément différente. Et donc, je me souviens très bien qu'à Moscou, quand ce projet a commencé à être annoncé, le maire de Moscou a dit « Oui, on fait un concert pour 30 000 personnes ». Et en fait, il y a eu 3 millions de personnes qui sont venues. Ça s'explique difficilement. Ça s'explique, il y a peut-être deux ou trois raisons. La première, c'est que ma musique a été très populaire.
Là-bas.
Là-bas, à l'époque du Rideau de Fer, où cette musique était interdite.
Ah, elle était interdite, votre musique.
C'est bizarre pour une musique instrumentale, parce qu'on pourrait se dire que souvent, c'est les paroles qui sont interdites. Et en fait, la musique instrumentale, c'est très rare qu'elle soit interdite. Et pour les Russes, pour les Soviétiques, c'était le symbole de l'évasion. Et en fait, donc, il y avait une grosse attente de ce public et qui fait que quand je suis venu, il y a eu tout un ensemble de choses qui a fait que ça a été une expérience incroyable. Parce que ça reste, je pense, certainement l'événement où il y a eu le plus de public. Et au-delà de moi, il y avait aussi la volonté pour les gens de partager un moment unique, de se retrouver. Et je dois dire que quand on... Là, Nikos, vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport au contact qu'on
peut avoir.
Comment
vous ressentez la salle, si je peux me permettre?
C'est une très bonne question.
Comment on sait si on est dans le coup, si ça prend, s'ils s'en foutent, s'ils aiment, si... Comment on sait ça?
Et en fait, c'est une histoire d'amour ou une histoire entre deux entités qui sont le public et la scène. Et ça marche ou ça marche pas. Et souvent, c'est plus intimidant de se retrouver devant vous, là, ici, avec quelques, même dizaines de personnes, dans un studio comme ça, où vous êtes en fait à nu. Plutôt souvent que de se retrouver avec une foule plus grande, avec aussi toute une scénographie dans laquelle vous êtes un élément du projet. Mais je voudrais citer très très rapidement une anecdote par rapport au concert de Moscou. Il se trouve que le soir du concert de Moscou, c'était le samedi soir. Et le samedi soir à Moscou, il y a beaucoup de vodka qui circule. Et il se trouve que c'était le jour des funérailles de la princesse Diana. Et il se trouve que je la connaissais plutôt bien, et elle aimait particulièrement un morceau que j'ai fait qui s'appelle Souvenir de Chine. Et donc, il me vient comme ça instinctivement, sur scène, de dédier le morceau Souvenir de Chine que je jouais à Moscou à la princesse Diana. Et donc, imaginez donc ces centaines de milliers de personnes devant, un samedi soir, avec des cris, de la foule, etc. D'un seul coup, s'arrêter net, il n'y avait plus un bruit dans la ville, et tout le monde, tous les Russes, ont commencé à allumer des briquets, etc. Et il faut comprendre quand même que la princesse Diana, entre Moscou et Londres, il y a une grosse distance géographique, mais culturelle aussi. C'est-à-dire que bon, on pouvait s'imaginer que c'était pas si important que ça. Et ça montre à quel point, quand ça marche avec un moment d'émotion, même avec une foule immense, ça fonctionne. Et moi, j'étais tellement ému que j'ai pu recommencer à jouer pendant au moins 3 minutes. Tout le monde était tellement ému sur scène que j'étais scotché, quoi, de voir d'un seul coup cette foule devenir complètement... On aurait pu en entendre un oiseau voler. Et ça montre à quel point, quand vous arrivez à faire passer une émotion avec une foule, quelle que soit la taille de ce public, ça fonctionne.
Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Michel Jarre. Le premier volet de votre album Electronica est sorti il y a quelques semaines avec 15 collaborations, notamment Air, Moby, Massive Attack ou Lang Lang.
Vous avez écrit les paroles « D'où sont les femmes » de Patrick Juvet. Pensez-vous qu'il les a trouvées depuis? Alors c'est très drôle comme question. C'est très drôle comme question parce que je vais vous dire pourquoi. Patrick, enfin c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un grand, grand, grand talent, et quand on a écrit cette chanson et quand j'ai produit cet album, il m'a dit, tu sais, j'ai mis en fait beaucoup de temps à comprendre le sens des paroles et j'ai compris les trois degrés, les trois niveaux différents. C'est-à-dire le fait d'abord où sont les femmes sur un plan féministe, où les femmes à certains moments ont tendance à être un peu moins féminines parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, l'évolution de la société, etc., qui était un clin d'œil, amusant à l'époque, qu'il est moins maintenant. L'autre chose, effectivement, c'était l'homosexualité de Patrick, et puis le fait que, aussi, il avait aussi toute... Comme beaucoup d'ailleurs d'artistes qui, et c'est pas un secret de parler de son homosexualité, il avait énormément de fans qui étaient des filles et des femmes aussi. Et donc c'était aussi en même temps sur ce qui peut arriver à un artiste quand il a moins de fans aussi. Donc pas de femmes, mais moins de fans, femmes ou hommes. Et donc du coup c'était comme ça un texte à tiroir. Et je dois dire qu'après cet album et les mots bleus aussi que j'ai fait pour Christophe. J'ai eu la joie, et je le dirais, parce que c'est une des grandes joies de ma vie, de recevoir une lettre de Serge Gainsbourg me disant « Bienvenue au club ». Donc ça m'a fait beaucoup, ça m'a beaucoup touché et ça me touche encore.
Cette émission, mon cher Jean-Michel Jarre, on essaie de partager une photo avec nos auditeurs.
Parfait.
Alors, de qui s'agit-il ? Vous êtes venu avec une photographie.
Alors, j'ai une photo devant moi qui est une photo d'une jolie blonde et de moi, mais avec qui nous n'avons pas de relation autre que musicale.
Elle n'est pas à forte poitrine aussi.
Qui s'appelle Victoria Esquette, et dont le surnom est Little Boots. Et je l'ai découverte en fait sur Internet. Et j'ai découvert quelqu'un qui faisait de la harpe laser, comme vous savez, c'est un instrument que j'ai créé. Et à quelques années d'intervalle de voir une petite Anglaise blonde jouer de la harpe laser, je me suis dit, tiens, c'est un mini-moi féminin. Et donc, j'avais envie d'en savoir plus et j'ai découvert que c'était une musicienne accomplie, que c'était en plus une obsédée du son, des synthés, qu'elle avait fait son premier album chez elle, dans sa cuisine, comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est aussi la rencontre, au fond, de la musique électronique et de la pop musique anglaise. Alors, la photo, disons que... Elle est en noir et blanc. Et elle symbolise bien, en fait, le côté latin, dark et sombre. que j'incarne, bien entendu, et la fraîche petite blonde anglaise que les Anglaises incarnent.
C'est
également.
Un mentor qui est à côté, c'est quoi c'est, qu'est-ce que vous voyez de,
oh, bah, c'est un, vous c'est, je pense que c'est un grand frère, une petite sœur. Quand je vois cette photo, d'ailleurs, je suis très content, d'ailleurs, c'est ça, parce que c'est pas parce qu'on travaille avec des gens du sexe opposé ou même du même sexe, il y a forcément une relation sexuelle.
Je voulais vous poser la question.
Latente. Ouais, je me doutais bien, donc c'est pour ça que j'ai. Voilà, je ne vois pas de tension sexuelle sur cette photo.
Plutôt
deux artistes qui partagent un même moment et qui ont l'air plutôt heureux de le partager. Mm-hmm.
Elle était fan. Ça vous fait
ça, il faut lui demander.
Non, mais quand ils viennent vous voir, les artistes de cette génération ou d'autres, et qui vous disent, par exemple, mon père avait acheté votre disque, ou je vous adore, et elles ont 17, 20 ans, etc.
Alors,
comment vous gérez ça encore?
Alors, je préfère qu'elles me disent, j'ai acheté votre disque, plutôt que de dire, mon père ou mon grand-père a acheté votre disque. Vous voyez, ça file toujours un petit coup au moral, mais en même temps, pas du tout, parce que je plaisante. En même temps, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que j'ai travaillé avec des artistes sur 4 ou 5 générations, et de voir aussi que finalement, quand on a un style musical, on est intemporel.
Faut pas être à la mode.
Je pense que on décide pas de l'être ou pas, mais je pense qu'il y a un grand avantage de ne pas être à la mode, c'est qu'on ne dépend pas de la vague qui vous arrive derrière vous, derrière la tête. Et il y a combien de gens qui sont qui ont la faveur d'une semaine, d'un mois, et c'est encore ça s'accélère aujourd'hui avec Internet. Et je pense qu'il faut prendre ses distances par rapport à ça et considérer que le succès, comme les échecs, sont des accidents, et que le trajet d'un artiste, il se trouve au milieu. D'ailleurs, dans la vie de chacun, je pense que c'est ça.
Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été avec nous ce matin. Je conseille à tous nos auditeurs de se procurer au plus vite Electronica, 15 collaborations extraordinaires.